Bonjour, c'est pas hyper fort, c'est suffisant ou pas? Ok, j'en ai deux quasiment à suivre, d'ailleurs je fais de la pub pour la prochaine, sujet sur le crowdfunding à 14h si ça intéresse certains. Alors tout d'abord, bienvenue à tous, merci d'être au rendez-vous parce que vous êtes assez nombreux, visiblement bien installés. Aujourd'hui on va commencer cette table ronde sur les genres et spécifiquement certains genres dans notre qualité de rôliste pour l'essentiel. Donc on va aborder des genres comme le steampunk, comme le dieselpunk ou le cyberpunk. On pourra même étendre au besoin sur des genres qui vous parleront peut-être, hein, qu'on appelle l'atompunk ou encore le singularity punk. Mon accent britannique est tellement bon que vous avez tous compris. Alors du coup, pour parler de tout ça, on va avoir une très belle brochette d'invités. Alors on va commencer par Sarah Newton, qui se trouve bien entourée. Sarah, qui nous vient du nord de l'Angleterre et qui d'ailleurs habite en France, mais qui est une personne qui nous propose un jeu, qui d'ailleurs aujourd'hui commence à être bien traduit en français, qui s'appelle Mindjammer. Qui par le passé a fait d'autres choses. D'ailleurs, si je ne m'abuse, tu as été éditrice, je crois, à la British Society, Fantasy Society.
Oui, c'est ça.
Ok.
Oui. Ça marche.
Ouais, je suis pas sûr qu'on t'entende très bien. Vous l'entendez bien? Vous l'entendez bien?
Vous m'entendez ou non? Non.
Ouais, essaye peut-être un autre micro, Sarah. On peut peut-être le mettre de côté, celui-là.
Comme ça, c'est mieux.
Ah voilà. D'accord. Là, ça marche très bien.
Ça marche.
Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter pour présenter ça. Hein.
Pas forcément, non. On va faire une traduction française de Mindjammer avec Studio Dead Crows, qui ont déjà publié Capharnaum et Venzia. Ils vont faire bientôt une campagne de crowdfunding, je crois que dans les 2-3 mois qui viennent. Et j'espère que la version française de Mindjammer va apparaître vers printemps prochain, je crois.
Ok, merci à toi. On passe du coup... à la gauche de Sarah, à Romaric. Romaric qui lui aussi est notamment créateur.
Bonjour.
Créateur pour tout d'abord Sans Sexologie.
C'est ça.
Et je crois Val.
Le Val.
Le ouais. Val, autant pour
Un
moi.
Jeu de cartes, hein, qui n'a rien à voir avec, pour le coup, du steampunk ou du cyberpunk.
Avec l'environnement qu'on va aborder aujourd'hui, effectivement.
Sans, par contre, un peu plus. Il y a pas mal d'éléments du jeu qu'on rapporte au cyberpunk. Assez peu avec le steampunk, bien sûr. C'est pas de l'Uchronie, mais voilà.
Ouais, mais c'est.
Et je suis aussi animateur du podcast hebdomadaire de la cellule. J'imagine que c'est surtout pour ça que tu m'as invité, plus que pour.
Non, figure-toi que c'est surtout pour Sens.
Ah, d'accord, ok.
Parce que tu vas nous parler justement de ce que tu as voulu aborder dans Sens, et c'est d'accord. Surtout pour ça, figure-toi. Mais ta qualité de podcasteur fait de toi un orateur intéressant.
Ça marche, merci.
Bien. Nous allons maintenant passer à Sébastien Delfino.
Bonjour.
Alors, Sébastien, qui est lui aussi créateur, au demain. Ouais, je pense qu'on t'entend. Public.
C'est un test, m'entendez-vous? Okay. Oui, ça, ok. Oui.
Sébastien Delfino, qui lui aussi est créateur, qui va d'ailleurs pouvoir proposer ses jeux en animation,
un peu après, oui.
En démo, au pôle ludique. Donc, si vous voulez.
Il n'y a pas de punk.
Il n'y a pas de punk dans ce qu'il propose aujourd'hui, mais monsieur aborde le sujet sur d'autres jeux qu'il est en train de produire, si j'ai bien compris.
On est en train de travailler sur un steampunk qu'on s'amuse à aborder comme si c'était du cyberpunk.
On va peut-être pouvoir en reparler plus tard.
Oui.
Ok. Pour information, Sébastien est aussi le tenant du site des carnets ludologiques.
Presque. Carnets ludographiques. C'est pas grave, tout le monde
pardon.
Se plante.
Mais c'est vrai qu'on a plus envie de dire ludologique. Je sais pas pourquoi.
Moi, j'ai plus envie de dire ludographique.
Ouais, mais parce que t'es graphiste à la base. Peut-être. Passons, autant pour moi. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Sébastien?
Et tout de suite, non.
Ok. Adrien, enfin. Adrien qui.
Donc,
Adrien Toulon, qui n'a pas encore produit à proprement parler, mais qui est très productif parce qu'il est sur plein de protos à la fois. Donc, qu'il fait jouer, ce me semble, pendant les Utopiales.
Oui, c'est ça. Je fais jouer un proto de jeu de rôle. Faut que j'approche, apparemment. C'est mieux là? Donc je fais jouer un proto de jeu de rôle dans deux univers, donc un univers cyberpunk, si on peut dire ça, et un univers où la science a disparu. Donc ça fait quelque chose un peu hybride, mais ça se rapporte assez bien au sujet.
Ok, Ok, ok. Du coup, qu'est-ce que vous pensez d'attaquer le sujet par la façon dont il était proposé dans le programme ? Notamment par la question que posent les suffixes, dans les préfixes, pardon, je me perds. Les préfixes dans le, on va dire l'articulation de ces différents mots que sont le steampunk, le dieselpunk, et puis on va s'arrêter au cyberpunk dans un premier temps. Qui veut attaquer sur le sujet ?
Première question subsidiaire. J'ai vu sur le panneau là que c'était écrit quel genre d'expérience ces styles permettent-ils ?
Absolument.
Et sur le programme, je crois que c'était les propos. Ça a de l'importance et...
Pas particulièrement.
On fera les deux.
Mais très pas bien. Particulièrement, okay. Mais effectivement, c'est. Je t'avoue que je ne savais pas qu'il y avait une différence de notation sur le portique là.
C'est pas tout à fait le même sujet, tu vois.
Ah non, c'est pas tout à fait le même sujet. Et effectivement, la question qui s'était posée était plus sur l'expérience qu'on va en tirer, ouais.
Ok. Donc tu nous interroges sur le Steam, le cyber et le diesel finalement, dans les appellations.
On va dire dans un premier
punk,
temps, ouais.
Etc. Alors, pour le cyberpunk, ça semble assez clair. On parle de cybernétique. Je ne sais pas exactement quelle réponse tu attends, mais ça semble assez évident qu'on va parler de technologie, de nouvelles technologies. Le Steam, là, c'est plutôt la vapeur. Donc, on va imaginer que les développements technologiques ne se sont pas déroulés tout à fait comme prévu et que c'est plutôt la vapeur qui a explosé, si j'ose dire. Et le diesel, c'est plus vis-à-vis de fiction comme Mad Max ou des visions plus post-apocalyptiques dans lesquelles le diesel, le gasoil en fait, on pense aussi à des choses comme Waterworld, ça peut faire sourire aujourd'hui, mais ou dans lequel le gasoil en fait joue un rôle majeur. Donc en fait, dans tous les cas, on a affaire à une source d'énergie et auquel on va attacher justement le mot punk. C'est une première remarque un peu évidente, hein, on enfonce des portes ouvertes, mais est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter là-dessus ?
Oui, je voulais parler un peu de l'histoire, en fait, parce que c'est pas seulement, bien sûr, une question de technologie pour les trois punks, ou les multiples punks qu'on a déjà maintenant, mais aussi il s'agit d'une période d'histoire et d'une société contre laquelle les joueurs se trouvent opposés souvent dans les jeux. Alors, je crois que c'est très important. Pour moi, le diesel, bien sûr, il y a cet élément post-apocalyptique dedans, mais aussi il s'agit de le Weird War, de la Deuxième Guerre mondiale, de la période entre les guerres. Pour moi aussi, il y a cette différenciation entre atom punk et diesel punk, et pour moi, c'est peut-être un peu trop fin. Je préfère que le diesel va directement à notre ère, peut-être presque. Alors, mais pour moi aussi, la Deuxième Guerre mondiale avec toute cette technologie étrange appartient au dieselpunk.
Attention à ton micro, je pense.
Ça marche pas ? Ça marche maintenant ?
Ouais. Le pouce, regarde, le pouce, c'est la clé. Je dis ça souvent.
Et puisqu'on parle de technologie, a priori, tous ces genres-là vont discuter de la position des humains par rapport à leurs machines. La question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a créé ? Et la grande angoisse depuis qu'on a commencé à fabriquer des technologies qu'on n'est plus capable de démonter, c'est qu'est-ce qui va se passer quand elles vont décider de nous démonter, nous ? Ou si elles tombent en rideau ? Ce qui veut dire que, à mes yeux, les différents punks, les trois suffixes qu'on a déjà cités, posent chacun des questions sur la puissance qu'on s'est donnée en tant qu'humain par la technologie, et le moment où cette puissance rate, que ce soit qu'elle se retourne contre nous, qu'elle cesse de fonctionner, ou qu'elle nous échappe. C'est par exemple l'angoisse fondamentale du cyberpunk. C'est le moment où les ordinateurs vont être plus malins que nous. Et ce rapport à la technologie, c'est à mes yeux beaucoup un rapport à la puissance, un rapport au pouvoir. Qu'est-ce qu'on est capable de faire du monde où on vit ? Qu'est-ce qu'on est capable de se faire les uns aux autres ? Et là, alors, on ouvre des tas de possibilités en termes, alors d'abord dramatiques pour nous qui sommes des gens qui racontons des histoires, en termes ludiques, c'est-à-dire que on va créer de l'opposition, on va créer des obstacles, on va créer plein de manières d'interagir. Et il me semble que la question du punk nécessite une petite touche de révolte. C'est-à-dire que nécessairement, en parlant de toutes ces machines, on va parler, je vais faire un détour par l'anglais, mais de la notion de machine, du système où on vit, de la manière dont on interagit avec, et éventuellement de la manière dont on le refuse.
Il y a aussi quelque chose qui peut se greffer à tout ça, du fait de effectivement toute cette évolution technologique, ce soit pour les trois, la dépendance qu'elle crée au niveau de l'humain. Et du coup, ça entraîne aussi une question sur ceux qui les contrôlent, notamment le cyberpunk, ceux qui vont contrôler les implants, les informations, ça va être les méga-corpos, ça va être les grands méchants. Dans le dieselpunk, ceux qui ont la technologie de machine la plus évoluée, c'est généralement ceux qui vont diriger les pays ou ce genre de choses. Et dans le dieselpunk, du coup, c'est ceux qui vont contrôler les ressources qui permettent de faire fonctionner les machines, qui vont un peu régir les lois, qui vont régir un peu l'environnement.
Alors, à savoir aussi un truc juste que je voulais ajouter, c'est que il faudrait pas non plus faire dire à l'étymologie de ces mots plus de choses qu'ils ne représentent, parce que autant le cyberpunk est un mouvement qui avait un manifeste avec des auteurs qui tenaient vraiment des positions, autant les autres mouvements se sont plutôt constitués autour de ce premier mouvement. Le steampunk un peu en réaction. Alors là, moi, je suis pas spécialiste de la question. Il faudrait plutôt demander à des gens comme Étienne Barrier et tout ça qui sont. Mais il y a vraiment une dimension comme ça. Malheureusement, il est pas là. Il y a vraiment une dimension. Attention, quoi. Faudrait pas non plus. C'est un peu comme le mot métaphysique en philosophie. On lui fait dire beaucoup de choses. En réalité, c'est juste un bibliothécaire qui savait pas où filer ou foutre certains bouquins, qui les a mis après la physique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu pareil pour ces concepts-là. Il faut faire attention quand on interroge le...
Alors, je me pose juste une question en termes de référence. À quel environnement tu fais référence quand tu dis qu'il y a bien un environnement de gens qui ont développé
la littérature.
Une pensée. Et du coup, quels gens en question? Tu penses à des gens comme...
c'est là que j'ai pas les références.
Alors, il y en a peut-être certaines qui seraient intéressantes. C'est du côté de Berkeley, dans les années 70... où on a un magazine qui, je crois, s'appelait Mondo 2000, je crois, quelque chose comme ça, dans lequel d'ailleurs quelqu'un comme Gibson prend ses racines, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Et justement, il y avait un comité de relecture qui disait ce qu'était du cyberpunk et ce qu'en était pas. Là où d'autres auteurs ont pris justement le contre-pied de ce système.
Est-ce que tu veux qu'on parle un peu des genres littéraires qui vont avec, justement?
Ça semble assez cohérent, voire même des genres cinématographiques, en fait.
Et éventuellement de leur succession? Parce que, très simplement, le steampunk, c'est à une époque où des gens comme Tim Powers ont commencé à publier ce qu'on commencera à appeler du rétrofuturisme. Ensuite, ils cherchent un nom pour désigner des bouquins qui sont déjà sortis, et ils cherchent un nom pour avoir un genre, et un genre pour pouvoir simplement en parler dans les magazines. Donc, au-delà du cyberpunk, ils ont fini par faire ce qui était vraiment une grosse blague au départ quand ils ont dit steampunk. C'était pour déconner. Le mot est resté parce qu'il plaisait. Et comme l'immense majorité des genres, que ce soit en littérature ou dans les autres médias, ça reste parce qu'à un moment, ça plaît au public, quoi. Si vous adhérez à un genre, si vous revendiquez ce genre, les libraires, les marchands de médias vont essayer de vous le fourguer.
Mais je crois que dans ce cas, il faut dire aussi qu'il y a une assez grande différence entre la signification du mot steampunk pour la littérature et aussi pour les jeux.
Oui.
En fait, le mot steampunk a été inventé en 88, je crois, mais c'est déjà utilisé maintenant pour les romans de Jules Verne, par exemple. On dit que ça, c'est steampunk.
Ouais, c'est ça.
Du point de vue littéraire, c'est difficile à décider si ça appartient ou pas. Mais pour les jeux de rôle, je crois qu'il y a une signification complètement différente, très spécifique au niveau de façon de jouer pour les personnages qu'on incarne, je dirais.
Ouais, tu penses justement quelle serait la définition? Parce que là, moi, je ne la vois pas d'entrée de jeu comme ça. Ce n'est pas si évident, en fait, de donner une définition. Je me souviens très bien qu'on avait justement enregistré un podcast avec Étienne Barrier sur le podcast de La Cellule. Et on a eu énormément de mal à bien définir. Pour eux, les gens qui font du steampunk, c'est clair. Mais dès qu'on leur pose la question, le sol se dérobe assez rapidement sous leurs pieds. En fait, on a une intuition, mais... Alors comment est-ce que vous, toi Sébastien, vous définiriez ce style ?
Moi, je ne le définirais pas à partir du moment où c'est un genre littéraire qui est en activité.
Ah, je suis d'accord avec toi.
Ça veut dire que son périmètre évolue constamment. Et que ce qu'on décide d'inclure ou pas, c'est effectivement la question de Jules Verne, par exemple. Le type, il s'est même jamais posé la question de savoir s'il était steampunk. C'est une étiquette qu'on lui a collée après coup. Mais encore, c'est un phénomène médiatique. C'est-à-dire qu'on colle des étiquettes aux choses pour pouvoir les ordonner dans la manière dont on y pense, dans la manière dont on les vend aussi.
C'est vrai.
Souvent après coup. Et Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auteurs qui se définissent par le genre.
Je ne pense pas, en fait.
Non, pas tout de suite.
On essaye de raconter une histoire, et quand on crée un jeu, on essaye de mettre en place des problématiques et des des interactions qui sont significatives. Et puisqu'on posait la question des jeux, à mon avis, la principale différence dans les différents jeux et les différents genres littéraires, ce qu'ils amènent, c'est, encore une fois, pour moi, ce rapport à l'action et à l'interactivité. Et quel est, alors, non seulement le genre de puissance qu'on va confier aux joueurs et avec lesquels on va leur permettre de jouer, quand on est dans la high fantasy et que tout le monde a des super pouvoirs magiques, on sait qu'on va essentiellement interroger ce truc-là. Lorsqu'on est, par exemple, dans un système beaucoup plus machiniste, avec du steampunk, par définition, il y a un effort à fournir, que ce soit un effort technique, ou un effort ludique, ou un effort intellectuel, pour mettre en œuvre ces machines, qui n'est plus tout à fait le même. Ça a aussi, à mon avis, des impacts sur le rythme de jeu. Alors, je vais dire brièvement une méchanceté sur le système de jeu de cyberpunk, qui essayait de traduire de manière précise des choses qui devaient prendre des nanosecondes, et c'était joué pendant des heures.
Ouais.
Ce rapport au rythme, à la vitesse, à l'immédiateté de ce que vous faites, il est en fait normalement très ludique. Et si on s'en remet simplement à la définition littéraire des genres, il ne va pas suffire. Et une des questions qu'on va devoir se poser en jeu, c'est comment est-ce qu'on le met en œuvre pour que l'impression qu'on aimerait donner, que ce soit « il faut deux heures pour démarrer votre dirigeable de l'enfer » ou « il faut une nanoseconde pour envoyer un message sur le net », soit effectivement ressenti par les joueurs et par les gens qui vont interagir avec votre bestiau.
Mais si on aborde juste le sujet d'un point de vue du décor en tant que tel, c'est pour ça que définir vraiment le genre, que ce soit dans les trois catégories dans lesquelles on débat là, je pense que c'est un peu comme n'importe quel mouvement culturel. En fait, ça rassemble une idée, ça rassemble une sensation, ça rassemble quelque chose. Donc du coup, le définir précisément, c'est quasiment impossible. On va avoir du cyberpunk qui va être... Enfin, il y a des débats, on va parler de Blade Runner, par exemple, en disant c'est du cyberpunk. On peut aussi l'aborder d'un point de vue transhumaniste. C'est très large. On va la rapporter parce qu'au niveau ambiance, ça va être proche du roman noir. Ce qui est le cyberpunk s'approche de cette ambiance-là. Et on va l'amener du point de vue transhumaniste avec les intelligences artificielles qui évoluent et qui développent une conscience. Donc en fait, je pense qu'effectivement, c'est très difficile de développer une définition précise de ces univers. Par contre, effectivement, je pense qu'en tout cas, dans le jeu de rôle, moi, tel que je le ressens, on a un feeling. On sait directement si c'est du cyberpunk, si on s'approche du steampunk, d'une dieselpunk, etc. Mad Max, on peut très bien le mettre dans du dieselpunk, comme on peut le mettre dans du post-apo. Mais dans l'idée, on peut très bien le concevoir comme du dieselpunk, parce que la matière première, c'est l'essence, et c'est ce qui permet de faire... rouler, produire des choses à travers le monde.
Et en fait,
on est déjà en train de parler de la définition du punk déjà, ou
exactement
pas encore...
un petit peu. Sébastien,
oui. Je pense qu'on glisse.
Sébastien, il a gentiment commencé à, parce que en fait, il y a effectivement ce punk hein, qui par contre parcourt tous ces courants et là qui parle effectivement de ce dont Sébastien parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le contrôle, l'anti-système. Et compagnie. Sarah, je te laisse embrayer du coup.
J'ai juste une idée un peu provocatrice à dire. Oui, qu'est-ce que vous pensez? Le punk, dans tous ces sous-genres, c'est l'attente dans les jeux de rôle, pour la chance pour nous, des gens du 21e siècle, de se mettre dans des périodes historiques et jouer avec le rapport des gens normaux avec la technologie et les révolutions technologiques qui les entourent. Alors c'est peut-être une attente, une tentative vers une définition de punk. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je trouve ça intéressant, mais si j'ai parlé de révolte tout à l'heure, c'est parce qu'il me semble que, comme à chaque fois on définit un système et ce qui va être la source d'une puissance... c'est particulièrement important dans le jeu de rôle où, pour des tas de raisons souvent bassement scénaristiques, on ne joue presque que des rebelles ou au bas mot des indépendants. Et il me semble que les genres punk sont l'occasion pour nous qui vivons quand même dans une société extrêmement molle d'avoir l'occasion d'expérimenter un peu de révolte. et d'avoir justement un système défini pour savoir contre quoi se révolter. Ce qui est beaucoup plus difficile lorsqu'on a une société hyper complexe à laquelle on adhère largement à coups d'iPhone et d'abonnement. Le rapport à la révolte devient beaucoup plus compliqué lorsqu'on est en réalité extrêmement investi dans sa propre cage. Et définir un peu clairement où est le pouvoir, quelle forme il prend, ça nous permet de jouer à expérimenter de la révolte dans un cadre où elle est relativement claire.
Pour aller un peu dans le sens développé jusqu'à maintenant, Étienne Barillet avait ce mot dans le podcast de la série que j'aime bien, il disait « ces styles existent parce que la réalité est foncièrement décevante ». C'est-à-dire qu'il y a un côté où on est déçu par le monde dans lequel on vit, en tout cas on est pessimiste à son sujet, et donc soit on va... c'est un présupposé. Imaginons que ces auteurs soient pessimistes au sujet du monde. Le cyberpunk, c'est quoi ? C'est une extrapolation pessimiste de toutes les formes de contrôle en fait qui existent dans la réalité, que ce soit au niveau militaire, au niveau technique, au niveau technologique, informatique et compagnie. Le steampunk, c'est encore autre chose. Si on est déçu par la réalité, donc on va imaginer un passé dans lequel les choses ne se seraient pas tout à fait passées comme elles se sont passées et dans lequel on aurait une autre chance d'avoir un autre monde. Un monde où la technologie serait foncièrement différente et compagnie. Et le dieselpunk, c'est, bon, le monde, il est pourri, on fait tout péter, hein, et on voit ce qui reste, et etc. Mais dans tous les cas, ça part, c'est comme, donc, pour aller, encore une fois, c'est vraiment une révolte contre la réalité. Et c'est là que je rejoins Sarah, c'est qu'on demande, on propose à des joueurs d'incarner des révoltés, mais c'est des joueurs qui viennent de notre monde à nous. Et on les confronte soit une vision extrêmement pessimiste dans le cyberpunk, soit une vision nihiliste, j'ai envie de dire presque dans le dieselpunk, soit à un autre monde dans le steampunk. Donc en fait, les deux définitions là se rejoignent, enfin les deux visions.
Alors du coup, ça m'interroge sur un point, c'est la question de ce qu'apportent ces genres en termes de sensibilité. C'est-à-dire que là, tu développes sur le cyberpunk qu'a quelque chose de particulièrement attristant dans son approche. Le dieselpunk, qui est plutôt exutoire, quelque part. C'est après le désert, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais on a besoin du désert.
Très pessimiste aussi sur les rapports entre les
humains.
Bien
sûr, mais il y a déjà cet exutoire du fait qu'il n'y ait plus rien. Donc, quelque part...
Tout a pété.
Une forme de possible, c'est reconstruire par-dessus.
Un reset, c'est ça.
Voilà, exactement. Et enfin, le steampunk... qui, dans ton discours, si je ne m'abuse, a un côté un peu rassurant parce qu'on se propose une autre projection à partir d'un instant donné, une forme d'uchronie dans laquelle on s'inscrit avec un possible différent qui aurait pu arriver.
Oui et non, parce qu'il y a aussi une dimension très nostalgique.
J'aimerais bien faire une analyse que les trois punks, les plusieurs punks, sont en fait une sorte de série historique qui raconte l'histoire de nos relations avec la technologie. Et avec steampunk, on a les promis de la technologie. Qu'est-ce que la technologie va nous permettre à faire, oui, et on l'explore dans le jeu. Avec le dieselpunk, c'est plutôt pour moi, c'est le Weird War, la Deuxième Guerre mondiale avec les science nazis et les étranges inventions et les choses comme ça. Ce sont des menaces de technologie qui nous affrontent directement. Et le cyberpunk, c'est plutôt les conséquences de la technologie qui maintenant dirige notre société. Et c'est possible de voir les punks comme une évolution de notre relation avec la technologie. Et après ça, bien sûr, il y a la singularity punk aussi qui suivent cette même évolution, je crois.
Il y a aussi un côté dans les trois, enfin moi je le perçois comme ça, il y a un côté dans les trois où c'est peut-être la référence punk qui fait ça, mais il y a un côté sale. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose... Oui, on va avoir quelque chose qui est... on a un rapport à la machine, à quelque chose qui change fondamentalement la société. Et généralement, on joue dans ces bouleversements-là. Parce que si vous réfléchissez bien, aujourd'hui, on a des implants quand on a un membre qui a été coupé ou dans un accident ou quoi que ce soit. On a des implants qui existent, qui nous permettent de récupérer les fonctions qu'on avait. On est connecté en permanence avec un smartphone. On est bientôt connecté, on travaille sur des puces ou des rétines en réalité augmentée. Donc on n'est pas si loin que ça. Mais quand on aborde le cyberpunk, le steampunk et le dieselpunk, on a un côté sale. La machine, elle nous est indispensable, mais en même temps, elle nous détruit progressivement. Donc, pour revenir justement à ce qu'on disait, je pense que dans la fiction, on utilise ces trois-là pour justement, dans la fiction, faire passer des messages. Et je pense que dans les trois univers, on retrouve le même message. Après, je pense que c'est une question de sensibilité, on se retrouve plus dans l'un que dans l'autre.
Tu parlais du sale, on parlait aussi des promesses de la technologie. Juste avant la conférence, on discutait brièvement du fait que, d'une certaine manière, le steampunk, c'est un retour, c'est un rétrofuturisme qui permet de réidéaliser un passé dont on sait aujourd'hui, avec l'histoire, qu'il a été beaucoup plus cradingue que ce qu'on imaginait à l'époque. Et on abordait brièvement le fait que ce soit un genre, notamment, je parle du steampunk en particulier, très investi par les femmes, alors que c'est une époque qui était d'un machisme à crever. On a brièvement mentionné le colonialisme tout à l'heure, et à quel point cette machine est un système qui va permettre à une poignée de nations qui ont déjà eu leur révolution industrielle de commencer à se bouffer toutes les autres et ensuite à se les partager à coups de canon. Et alors qu'à l'époque de Jules Verne, ils ont de la technologie une vision qui est d'autant plus positive qu'elle est extrêmement naïve, qu'elle exclut en fait toutes les problématiques de l'époque. Plus exactement, tous les problèmes de l'époque qui ne deviendront des problématiques que quand ils seront posés.
Alors ce qui traverse aussi tout ça, c'est le rapport homme-machine. Hein, c'est la thématique en plus d'utopiale ici, donc on comprend pourquoi le sujet est là. Effectivement, c'est-à-dire que dans un univers steampunk, j'ai envie de dire, les hommes continuent, ils construisent des machines. Dans l'univers cyberpunk, si pour toujours dans cette continuité historique, ce sont les machines qui construisent les hommes. Hein. On voit bien comme dans le cyberpunk, c'est l'inverse en fait. Hein. Ce sont les systèmes, les iPhones, enfin les smartphones, pardon, et ce genre de choses qui font que on va devenir des individus différents. Dans le steampunk, c'est encore l'homme qui conduit la machine, hein, il me semble. Et après dans le dieselpunk, je sais pas tellement où placer, où situer. Ce serait après, quand tout a pété, justement, ce qu'on disait tout à l'heure.
Je dirais moi-même qu'on peut le voir comme les raisons pourquoi les joueurs dans un jeu de rôle obtiennent les augmentations, par exemple. Oui. Dans le steampunk, on le fait volontairement, parce que pas forcément que c'est cool, mais c'est parce que c'est utile. Oui. Et c'est l'aspect utilité qui est très 19e siècle. Oui. Dans le cyberpunk, on le fait pour survivre. Oui. C'est juste simplement parce qu'il faut faire. On n'a pas le choix. Oui. Et c'est la vie, c'est le mode de vie qui a été transformé par la technologie. Oui. Le dieselpunk, je dirais que c'est plutôt à partir d'une sensation de désespération, oui, qu'il faut utiliser. C'est pas forcément un choix, mais c'est, il faut le faire pour obtenir un but. Et le but, c'est normalement le défait de grands méchants, des nazis ou des choses comme ça.
Je pense qu'il y a aussi le rapport, dans le rapport homme-machine, dans ces trois univers, il y a la quête du dépassement de l'homme. Le but, c'est toujours d'améliorer les conditions humaines, de pouvoir faire plus qu'un simple homme ne pourrait faire tout seul. Et dans le steampunk, on essaye de voler, on essaye de faire, d'aller plus vite avec les trains. On a toute une technologie qui nous permet de faire plus que l'homme est capable de faire. Dans le cyberpunk, on va avoir les implants, on va avoir une connexion en permanence avec un réseau. Tout ça pour aller toujours plus vite, pour avoir le plus d'informations possible quand on en a besoin. On a une grosse dépendance. Et le dieselpunk, ceux qui n'ont pas les machines, ceux qui n'ont pas l'essence, ce genre de choses, ce sont ceux qui vont crever. Donc, on doit aller vers ça. C'est une sorte...
C'est une nécessité de survie, oui.
C'est une nécessité de survie, effectivement.
Par contre, je ne suis pas certain que le steampunk implique qu'on maîtrise déjà la machine ou qu'on maîtrise encore la machine. Alors, moi, j'ai un rapport au steampunk qui est assez marqué par, par exemple, un bouquin comme La Machine à Différence, parce qu'il est justement à l'articulation du steampunk et du cyberpunk.
Du chronique.
Mais aussi,
ce sont des auteurs cyberpunk qui l'ont écrit,
oui,
aussi. Oui,
ben, je sais. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais Sterling et Gibson avaient très, très envie, en fait, de faire un bouquin cyberpunk rétro-futuriste. Il s'avère que ça finit par avoir l'air très steampunk, mais ils ne parlent que de choses extrêmement cyber. Ils parlent de pixels en bois, ils parlent de... Bref. Et Pour autant, dans Steampunk, on peut choisir de mentionner ou pas ce qu'est la réalité du rapport de la majorité des humains à la machine à l'époque, et qui est la considérable masse ouvrière qui est soumise à une machine qui décide de leurs conditions de travail, du moment où ils se lèvent, du moment où ils se couchent. C'est les temps modernes de Chaplin, c'est le fait d'être...
Metropolis aussi, c'est...
Bonne référence, merci. Et il me semble... Alors c'est pour ça, je disais un peu plus tôt que je travaille sur un projet où on aborde un univers qui est fondamentalement steampunk, comme si c'était du cyberpunk, alors sans doute avec nettement plus de cette couche de révolte, mais notamment ces préoccupations à la fois politiques et sociales de quelles sont les classes d'une société et comment est-ce que ces classes vont se définir par leur rapport à la machine. En l'occurrence, considérant que la société est elle-même une espèce de grand rouage, il y a la classe ouvrière qui subit cette machine, il y a la classe moyenne plus ou moins bourgeoise qui l'utilise, et il y a ceux qui la dirigent et qui sont, alors au choix, une aristocratie ou une scientocratie, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. Et la position des joueurs à l'intérieur, le long de, de ces trois positions, va changer au cours du jeu pour interroger les différents états de la machine et les différents rapports à la machine. Ce qui m'intéresse en tout cas dans cette approche-là, c'est... Alors, je vais faire mon gauchiste pendant tout le truc, parce qu'on a dit punk, hein, je suis désolé. C'est de reposer tout le temps la question de qui a vraiment le pouvoir et comment vivent les masses.
Je me demande jusqu'où c'est gauchiste le punk. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt anarchiste, justement, libertaire.
Alors, c'est un peu plus gauchiste, c'est le bout de la branche gauche, si tu
d'accord.
veux. C'est, tu vois le socialisme, tu ouais. fais encore deux pas à gauche, t'atteins l'anarchie.
D'accord.
Donc, je sais pas.
Voilà.
J'ai un ami qui, encore c'est une chose un peu provocatrice, mais allons-y. J'ai un ami qui s'appelle Lavi Tidar, il écrit des romans, il a écrit un roman qui s'appelle Osama, et il écrit beaucoup de steampunk. Il a dit il y a plusieurs ans une chose qui a choqué beaucoup de monde. Il a dit que steampunk, c'est le fascisme pour les gens sympas. Oui. Et ça a vraiment choqué beaucoup de gens. Mais...
C'est une dérive possible. Hein. On sait bien que dans le steampunk aussi, il y a une espèce d'éloge de cette Europe toute puissante, colonisatrice, exploratrice. Oui, ça peut effectivement être une des dérives du steampunk. Surtout pour les gens qui s'intéressent à l'aspect superficiel en fait, des choses, leur esthétique et compagnie, où là ils peuvent rapidement verser dans la fascination de certaines esthétiques. Et ça, c'est tous les gens en fait qui se. Attention, quand on se revendique d'un style, moi j'aime beaucoup les guillemets ou les problématiques que vous avez soulevées au départ sur attention, c'est un style vivant, donc chaque auteur réinvente en permanence le style. Et donc. Attention à ne pas trop vite se revendiquer d'un style parce qu'il serait à la mode ou etc. Et là, sans savoir, sans prendre du recul, sans déconstruire en fait les présupposés idéologiques qu'il véhicule.
Et on peut aussi jouer avec ces déconstructions.
Absolument,
dans le jeu.
Mais oui, c'est ça qui est génial. J'avais encore un truc à dire par rapport à ce que dit Sébastien depuis tout à l'heure, parce que lui, il est vraiment rentré dans la phase jeu de rôle. Il est dans le sujet. Alors que nous, on interroge encore le style et tout ça. Voilà. Alors, il y a un truc qui me fascine, c'est que ce sont donc des styles qui sont punk, donc qui, encore une fois, interrogent la notion de contrôle, la notion de système, qui cherchent à favoriser des révoltes et compagnie. Et on trouve quand même beaucoup de jeux de rôle de ce style qui sont avec un meneur de jeu traditionnel qui incarne l'autorité et des joueurs qui, eux, cherchent à tout casser. Alors, est-ce que, justement, il n'y a pas un rapport entre la forme même du jeu de rôle traditionnel avec le meneur de jeu contre les joueurs, inversement, c'est-à-dire que bah, je sais pas, par exemple je pense à Shadowrun, c'était l'idée qu'on allait faire du donjon et dragon, mais au lieu de prendre un donjon, on allait prendre une méga corpo et faire entrer des Shadowrunners au lieu de faire entrer des aventuriers. Donc il y a cette idée que le meneur de jeu représente le système, l'adversité, et que les joueurs sont les petits éléments, les petits grains de sable dans le rouage, si j'ose dire.
Moi, de ce que j'ai lu en tout cas sur Shadowrun, à l'origine, c'est une critique du système. Le but, c'était pas jouer pour les méga corpos et jouer des gens qui allaient être payés par des plus grands pour faire de la sale besogne. À l'origine, c'était toujours de ce que j'ai lu. C'était une critique de la société, en quelque sorte, et le but, c'était de jouer ceux qui se rebellent. Vraiment ceux qui se rebellent à l'origine. Je pense que peut-être sous l'influence Donjon Dragon, avec le rapport meneur-joueur, ça a tourné à on sert les méga corpos et on peut y voir n'importe quelle image là-dedans.
C'est pas ce que je dis, hein.
Non, mais mine de rien, même si on croit jouer pour les bons camps, dans le cyberpunk tel qu'il est souvent pratiqué, on joue malgré tout pour les méga corpos. Après, je pense qu'il y a un effet décor aussi. Sur ce genre de meneur, il y a un effet décor. On prend l'univers pour le décor qu'il donne, pour l'ambiance qu'il apporte. Mais je pense, moi, tel que j'aborde les sujets, j'amène plus dans les jeux de rôle à ces univers, je vais amener plus un questionnement sur l'identité propre. C'est-à-dire, ok, toi, joueur, dans un univers cyberpunk, tu as des implants, tu fais des bons 15 mètres, tu peux voir à travers les murs, c'est génial. Maintenant, qu'est-ce qui te définit? Qu'est-ce qui fait que tu es humain? Donc amener du questionnement auprès des joueurs, pas simplement utiliser Cyberpunk pour du décor, mais amener le questionnement aux joueurs. Ok, c'est super, t'as plein d'implants, c'est génial, mais qu'est-ce qui te fait toi encore un humain? Par rapport à un tel, par rapport à quelqu'un de la basse société qui ne peut pas se payer d'implants, qui lui manque un bras ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qui te définit? Qu'est-ce qui va faire que toi t'es plus humain que lui?
Et c'est ça pourquoi que je crois encore qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les jeux de rôle avec ces trois genres. La question de système est très importante. Oui. Moi, je suis grande amatrice du système Fate parce que ça nous permet, comme joueurs, d'avoir des influences sur les objets, pas seulement les objets comme des humains, mais on peut jouer aussi les organisations, les cultures, les choses comme ça, et les influencer directement. Et dans les genres de steampunk et dieselpunk et bien sûr cyberpunk, ça serait très intéressant de pouvoir jouer un jeu où les joueurs directement peuvent changer leur société, leurs organisations, leurs méga-corpo. Et il y a beaucoup de choses à explorer encore, je crois, dans ce genre.
Oui, en fait, moi, ça me paraît tout à fait indispensable. Spécialement, alors, on a un peu parlé de cyberpunk et Shadowrun. Très rapidement, si Shadowrun rajoutait du fantastique, avec des méta-humains et de la magie sur un univers qui était fondamentalement cyberpunk, ils ont beaucoup plus réussi l'aspect politique que ne l'avait fait Cyberpunk 2020. Tout simplement parce que ils se sont posé des questions, alors que ce soit le racisme, les problèmes de société, et ou simplement la question de la pauvreté et de qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour gagner son pognon, d'une manière beaucoup plus profonde que l'avait fait Cyberpunk, où globalement tout l'aspect politique était incarné dans une classe de persos qui s'appelait les Rocker Boys et qui avait le droit de chanter sur les problèmes
politiques. Puis ils ont sous-traité aussi, c'est-à-dire qu'ils ont laissé chaque nation, chaque pays dans lequel le jeu était diffusé créer son propre univers, ses propres ambiances, donc importer des problématiques propres à chaque ça c'est malin, hein, c'est...
Mais c'était exactement le propos de Cyberpunk. Le premier Cyberpunk qui était sorti, c'était justement cet effet de révolte qui n'a pas du tout été capté parce que justement, peut-être qu'au niveau politique, et je pense qu'il y a d'autres problèmes aussi, ça n'a pas été suffisamment expliqué dans le livre. Donc les joueurs l'ont pris.
C'est un problème de gameplay fondamentalement.
Oui, gameplay exactement. Aussi, mais après tu remontes quand même à des années.
Vraiment, pour moi, il n'y a pas d'excuse en termes d'années. C'est
d'accord.
Une bête question de... Ce que le média est capable de faire, en l'occurrence, un média jeu, il doit être capable donner un maximum de possibilités d'interaction. Il faut que ces interactions aient un rapport avec le thème. Si tu joues à Cyberpunk et que tu peux pas déclencher des émeutes, attaquer les corpos, faire du terrorisme et t'en prendre au système, tu es à côté du thème.
Je suis totalement d'accord que le problème, il y a aussi du gameplay.
Simplement, la question du gameplay est malheureusement un peu nouvelle sur le jeu de rôle, simplement parce qu'on n'a que récemment échappé à la notion de simulation. On n'a que assez récemment commencé à réaliser qu'on n'avait pas besoin de simuler la réalité, qu'on avait besoin d'interagir avec. Et que cette interaction allait être significative à partir du moment où les actions des joueurs allaient être significatives. À partir de là, effectivement, on ressort notre Marshall McLuhan, le message, c'est le médium, et on se dit, bon, il faudrait pouvoir jouer avec le thème.
Alors ceci
et donc
dit,
interagir avec.
pardon, excuse-moi. Ceci dit, dans la base de Cyberpunk, on voit les illustrations. Moi, c'est les illustrations. Une des premières illustrations de la base, c'est quand même un type. On le disait, je sais plus si c'est avec toi, Eric, en préparation, c'est avec Globo. On en parlait. C'est quand même un type qui regarde son bras cyber avec donc son autre main posée sur son menton à la façon d'Hamlet. Et on voit bien clairement qu'il s'interroge. Donc il y avait quand même cette idée, même si je suis d'accord, le système ne sert pas du tout ce propos de cette problématique, on voit bien que l'intention des auteurs derrière, c'est quand même d'interroger sur la relation de l'homme à sa propre condition et à travers la machine, justement, à la projection de lui-même dans la machine.
Ce qui, pour le coup, le seul truc qu'ils ont introduit, effectivement, dans le système et dans le gameplay, ouais, c'était le rapport entre ce qu'ils appelaient... je crois que c'était déjà l'humanité.
Ouais, l'humanité.
Le fait que l'humanité, ouais. On perdait en gros des points de stabilité mentale au fur et à mesure qu'on avait des implants.
Voilà, ouais. C'est ça.
Et après, le fait, pardon, juste un dernier point, le fait que ce soit des jeux à compétences, c'est-à-dire que chacun soit des. On est tous des personnages qui ont une utilité. On est tous des outils. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que l'humain, le personnage est défini comme un ensemble de savoir-faire. Pas comme un ensemble de relations amicales, amoureuses. C'est très engagé, en fait. C'est montrer que l'homme est une machine dans le système, une machine dans la machine.
Donc je ne sais pas si c'était sciemment.
C'était peut-être pas conscient, mais moi, je sais très bien que sur des parties de Shadowrun qu'on a faites ou sur des parties de Cyberpunk 2020, ça a beaucoup joué. Ce côté, vous êtes... les cimetières sont pleins de gens irremplaçables.
Ouais.
Hein, vous croyez irremplaçable parce que vous pensez avoir des compétences très très forte, mais vous êtes dépassable et vous serez dépassé. Et l'idée de dire l'homme c'est une machine, c'est l'idée de dire un jour vous serez obsolète aussi. Ça, c'est intéressant quand même. Donc faut sauver, ça reste des chefs-d'œuvre. Hein. C'est pas parce que le système à l'aune d'aujourd'hui peut paraître dépassé que ce sont pas des chefs-d'œuvre, hein, les jeux dont on parle.
Je voudrais vous interroger sur le sujet en vous demandant ce que vous souhaitez aborder comme problématique par les œuvres que vous créez justement. Quels sont les axes qui vous intéressent et personnellement, vers où vous voulez faire tendre le gameplay, sur quel questionnement vous voulez aller? Vous avez chacun des productions très particulières qui interrogent la place de l'homme là-dedans, justement. Donc, je vous laisse vous exprimer sur le sujet.
Je commence.
Vas-y. S'il y a un blanc, ça va être pour Romaric. Hein.
Ça, c'est sûr. Le moindre... Donc... Moi, clairement, ce que je veux montrer dans tout mon travail, c'est que les machines, le système, le contrôle, nous permettent de nous défausser des problématiques existentielles, en fait. Nous permettent de ne pas voir ce qu'il y a sous nos yeux. Hein, on s'entoure d'un univers tout humain, tout artificiel, pour ne pas avoir à voir le véritable horizon, qui est la mort, la finitude. Et donc, à travers la finitude et la mort, en fait, la vie elle-même, le bonheur, le maintenant, l'ici et maintenant. Donc, moi, c'est ça que je travaille, à titre personnel, dans mon domaine. Mais moi, je ne me classerai pas trop dans tous ces... Moi, j'ai tendance à dire que c'est de la philo-fiction. Alors, certains disent de la science-fiction. Peut-être que Sens Mort, c'est un peu du cyberpunk, mais ce n'est pas évident. Enfin... Donc voilà.
J'avais cru comprendre parce que sur le site de Sens Exalogie, tu précises quand même que tu interroges les déterminismes.
C'est ça.
Donc effectivement, tu t'inscris quand même dans ces mécanismes-là.
Exactement. C'est plutôt un héritage de Star Wars, c'est-à-dire rébellion contre empire, résistance contre que véritablement un héritage de ces styles-là. Hein. Je préfère le dire parce que j'aurais pas de confusion. Sarah,
oui, moi personnellement, Mindjammer, c'est un jeu de science-fiction transhumaniste, et moi je suis profondément transhumaniste par philosophie. Je dirais que les jeux de rôle sont un média très puissant pour pouvoir discuter les problèmes qui nous opposent dans notre société. Et J'aime la possibilité d'avoir ces débats dans nos jeux. Le fait que maintenant, dans notre société, on est même déjà dans un environnement quasi cyberpunk. Ouais. On fait face maintenant à les révolutions technologiques qui vont nous mener dans un monde singularité punk très bientôt. Et il faut avoir un débat sur ça. Et j'aime bien que nos scénarios et nos aventures dans les jeux de rôle... bien que ça soit encore fin et plein d'action et plein d'histoires, ils sont aussi un aliment sérieux où nous pouvons débattre ces choses.
Je suis tellement d'accord avec toi.
Moi, j'ai un rapport au jeu de rôle qui tient presque dans la phrase, c'est un terrain d'expérimentation du libre arbitre. Et comme c'est le libre arbitre qui m'intéresse, suivant les jeux et suivant les gammes de jeux sur lesquelles je bosse, je vais toujours poser des questions par rapport à cette question-là. Par exemple, si c'est un jeu à mission, avec une organisation, etc., ça va être la question de la fin et des moyens. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour obtenir ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on est donc prêt à perdre ou à détruire en le faisant? À partir du moment où on est dans un jeu beaucoup plus sandbox, comme on en a parlé toi et moi récemment, et où on peut modifier le monde, bâtir des choses, etc., définir ses propres objectifs. Là, pour moi, la question, c'est l'ambition. Qu'est-ce qu'on est prêt à rêver? Et encore une fois, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme moyen pour faire advenir les trucs qu'on a rêvés? Et puis, dans certains cas, comme un des jeux que je vais présenter pendant le week-end, qui était une commande au départ, c'était un jeu fondamentalement sur la notion de corruption. Et l'idée, ça a été de monter un système autour de... Alors encore une fois, on a une mission. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour remplir la mission? Et pendant ce temps-là, on a une âme, on a un positionnement alors, philosophique, moral, etc. Et où on s'amuse à le concevoir comme inverse à la mission dès le départ. Et à partir de là, qu'est-ce qui va survivre en fin de mission? Est-ce que c'est les humains ou est-ce que c'est la mission?
Alors moi, que ce soit dans ces univers ou d'autres, dans mon jeu de rôle, je laisse en fait mes joueurs. C'est-à-dire dans le sens où je ne suis pas là, moi, pour faire passer un message, je suis là pour les amener à des questionnements. Eric en a fait les frais sur un playtest. Et effectivement, après, on a parlé pendant 3 ou 4 heures, je crois, juste sur une introduction. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder vos joueurs. Moi, c'est ce que je fais. Je regarde mes joueurs. Quand j'amène une problématique, quand j'amène quelque chose, un défi ou quoi que ce soit, je regarde mes joueurs. Je vois leur réaction. Si ça les gêne, si c'est un sujet qui est trop sensible, si c'est quelque chose qui les intéresse ou pas. Si je vois que ça commence à les gêner, je vais pousser un peu le truc dedans pour toujours attendre leur réaction. Et à partir de là, quand je vois qu'ils commencent à se poser des questions, c'est bon, il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin. On peut passer sur autre chose, on peut partir de ça pour faire avancer l'histoire. Je travaille sans scénario, j'ai un système sans dé, et qui laisse une grande part à l'interprétation et à l'implication des joueurs dans l'univers. Donc, avec mon système, ça fonctionne. Je veux pas dire, je sais pas si avec un système AD, ça peut fonctionner tout pareil. Je pense pas, parce que j'ai vraiment étudié le système pour ça. Mais l'idée, c'est je suis toujours sur le questionnement de mes joueurs, que ce soit vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis du monde dans lequel ils évoluent.
Merci du coup. On a peut-être la question finale, il nous reste pas forcément beaucoup de temps. La question finale la place de l'homme dans l'avenir, notamment via le Cyberpunk, comme on le proposait. Est-ce que vous voulez intervenir rapidement là-dessus pour qu'ensuite on puisse laisser interroger le public?
C'est surtout Sarah qui travaille ces
ouais,
questions.
Si Sarah, tu as envie de faire un point sur la question justement de ce que propose le transhumanisme.
Qu'est-ce que c'est le transhumanisme? Ouais.
Oula, question qui va nous prendre 3 heures. Mais effectivement, vas-y.
Vous voulez dire la question que qu'est-ce qu'on va devenir?
C'est un peu ça la question.
Oui, c'est... C'est énorme, oui. je crois que nous avons maintenant devant nous un grand choix de continuer avec l'espèce humaine ou essayer de dépasser nos limites et devenir quelque chose d'autre.
Tu veux dire avec le corps humain.
Nos limites, c'est devenir quelque chose d'autre.
Tu veux dire avec le corps humain, c'est ça.
Avec le corps humain, non, ouais. Et avec l'esprit humain, avec,
oui, avec
nos sociétés.
La conscience aussi.
Et c'est immédiatement devenu dans les 2-3 décennies qui viennent. Oui. Par exemple, avec la longévité. C'est immédiatement devant nous.
On rejoint, juste vite fait, on rejoint exactement les thèmes qu'on vient d'aborder. C'est toujours le dépassement de l'homme. Et l'avenir, il tend vers ça. Aujourd'hui, on tend vers ça. On est toujours là à essayer d'améliorer l'homme, que ce soit par quelque chose d'extérieur ou même soi-même.
Le corps de l'homme.
Améliorer l'homme, à mes yeux, est un truc propre au transhumanisme. Avant, on améliorait les possibilités, les conditions de vie de l'homme.
Oui, oui.
Et on remet en question la nature des humains. Au passage, je préfère humain parce que homme, voilà, ça exclut un peu 50% de la population.
Ouais, sauf que j'utilise l'homme avec un grand H, mais effectivement, humain, c'est
bien. Ben, j'aime pas l'homme avec un grand H.
Mieux,
on a mis trop de grands H sur les hommes pendant trop longtemps.
D'accord.
Et en l'occurrence, le transhumanisme a, à mon avis, l'avantage de poser la question de qu'est-ce que c'est qu'être humain, quoi. Et qu'est-ce qui va en rester.
Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers les trois styles qu'on a essayé d'étudier aujourd'hui. C'est que on s'interroge toujours sur ce qui fait l'essence de l'humanité à travers ces univers changeants. Hein. Ça, c'est propre au style uchronique aussi, c'est-à-dire que on cherche à voir qu'est-ce que, enfin, quand on dit qu'est-ce qui se serait passé si toutes choses égales par ailleurs. Ce qu'on trahit souvent, c'est le toutes choses égales par ailleurs, en fait. C'est-à-dire, nos présupposés métaphysiques qu'on traduit comme ça. Quand on dit si la bombe atomique explosait, les hommes se boufferaient les uns les autres pour récupérer le gasoil, ça en dit long sur les présupposés, les préjugés que les gens qui écrivent ce genre de texte ont de l'humanité. Mais on peut aussi faire d'autres hypothèses. Hein,
c'est déjà partir du principe qu'il y a une essence humaine.
Oui, c'est ça.
Et comme, par exemple, moi, je ne suis pas du tout essentialiste, et la question n'est pas qu'est-ce que les humains, mais celle qui m'intéresse, que font les humains,
oui.
Et qu'on se définit par ce qu'on fait, par ce qu'on ne fait pas, par ce qu'on rate et par ce qu'on tente.
Tout à fait.
Effectivement, le côté essentiel et la nature profonde de l'humanité m'intéressent moins que la manière dont elle s'exprime.
Et tu vois, justement, dans l'Uchronie, tu trahis ce que tu crois être fondamentalement l'être humain, parce que tu dis, tu imagines un monde différent et tu dis, bah, dans ce monde, bien
tu
que
trahis
tout...
l'histoire, mais pas nécessairement la nature humaine.
Ah ben non, mais tu trahis ta propre vision de la nature humaine, c'est ça que je veux dire, en tant qu'auteur.
Mais la nature humaine commence à devenir changeable dans une manière très profonde et
si
nous aurons le choix de définir qu'est-ce que nous voulons perdre et qu'est-ce que nous voulons garder de cette nature. Et ça m'intéresse beaucoup.
Je pense que c'est un choix qu'on a depuis très longtemps, en fait.
Oui, sur le niveau culturel, bien sûr. Mais maintenant, on parle directement du niveau de notre ADN et les choses comme ça. Alors, c'est beaucoup plus profond pour moi.
Je vous propose d'arrêter là, pardon, pour laisser un peu la parole au public. Sur le sujet, est-ce que parmi vous, certains ont des questions ? Vous battez pas, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul micro.
Et déjà, est-ce qu'il a assez de câbles ?
Monsieur le barbu au fond, je m'approche.
Je prends une chaise.
Est-ce que tu peux m'aider, Adrien ? Hop là, je te laisse faire.
Bonjour, le micro est court. Hop, je vais me déplacer. Vous avez parlé tout à l'heure de la... Ah non, je ne suis pas du tout un invité, moi. Vous avez parlé tout à l'heure de la technologie en disant que c'était un espoir dans le steampunk, une contrainte dans le cyberpunk, mais quand même en prenant le jeu, parce que j'ai bien conscience que c'est le cas en littérature, mais en jeu de rôle j'ai l'impression qu'on s'est un peu foutu de nous sur le sujet, parce qu'une des premières phrases quand même de cyberpunk, c'est le chrome, c'est cool. Et au-delà de ça, je vais revenir sur Shadowrun aussi, parce que c'est quand même un peu les deux grands représentants de ce genre-là en jeu de rôle. On joue des barbouzes et c'est très clair dès le début. Enfin, je veux dire, le Mr. Johnson, soit l'homme qui te confie ta mission, puisque c'est comme ça que c'est défini dans le jeu, c'est un agent des corporations qui va essayer de te la mettre à l'envers à la fin. On joue absolument pas des rebelles. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une fausse promesse dans les jeux de rôle cyberpunk de façon générale, où on te promet un genre où on joue des rebelles, et en fait, tu joues juste les poissons pilotes du système, quoi.
Ou en tout cas, les homards qui bouffent ce qui traîne au fond, quoi.
Bah, des barbouzes, quoi.
Parce que c'est le propos du jeu. Le propos du truc, c'est de te dire, bien que tu aies des volontés libertaires, anarchistes, que tu veux tout péter, eh bien, le système va te rattraper et tu vas finir par en devenir un rouage comme les autres.
Mais alors, je crois pas du tout que tu aies des volontés libertaires ou anarchistes ou autres. Je crois que vraiment, ce qu'on vend dans le jeu, d'ailleurs, les catalogues de matos se sont très très bien vendus comme supplément. Ce qu'on vend dans le jeu, c'est que tu auras le plus gros flingue et tu auras les meilleurs implants. Et c'est pas les meilleurs parce que tu en as besoin pour être meilleur que les autres, c'est juste que c'est cool.
C'est aussi la quête de la puissance. C'est-à-dire que c'est toujours le jeu de rôle. Le jeu de rôle, en fait, pas mal dans ces univers-là, j'ai l'impression qu'on fait du shonen, quoi. C'est tu vas toujours être plus fort, tu vas monter de niveau. De toute façon, on a cette depuis le début, on a cette notion de niveau. Tu vas devenir plus fort, mais pas simplement plus fort. Tu fais des pompes tous les jours, t'es plus musclé, tu vas avoir une meilleure santé. C'est au bout d'un moment, tu vas soulever des camions. Enfin, on est dans une Le jeu tel qu'il t'amène, les mécaniques telles qu'il te les amène et ses montées de niveau t'amènent à te dire de toute façon, il faut que tu sois plus balèze pour vaincre l'adversité. On te dit pas réfléchis mieux, on te dit pas tu peux t'y prendre autrement, on te dit pas vas-y, provoque une révolution, lève des citoyens pour aller dans le sens. Effectivement, et on n'a pas ça dans le jeu. On peut l'avoir, le problème c'est qu'on est culturellement déjà depuis des années sur cette idée que quoi que tu fasses, tu te feras écraser par le plus gros.
Et pour moi, c'est pas qu'une question de culture, c'est une question de qu'est-ce que le jeu propose et dans quelle proportion. Dans Cyberpunk, un tout petit peu, dans Shadowrun, beaucoup plus, on pouvait avoir, si on voulait, une action révolutionnaire, une action politique, une action sociale. Il y avait des questions de communauté, etc. Le problème, c'est que c'est minoritaire par rapport au supplément de matos. Et pour moi, le supplément de matos, c'est un excellent révélateur de ce qu'on veut faire avec un jeu. Et j'entends de ce que les joueurs aussi veulent faire avec un jeu. C'est-à-dire que les joueurs n'interagissent qu'avec ce qui est effectivement interactif dans un jeu. C'est toujours la question du gameplay. Si tout ce qu'on leur donne à faire, c'est du combat, ils ne s'intéresseront qu'à ça. Si par contre, on commence à installer des rouages et des systèmes pour utiliser d'autres aspects, y compris les aspects sociaux, ils commencent à servir. Si Shadowrun avait fait des suppléments entiers sur « Montez votre communauté, soutenez votre communauté, préoccupez-vous de questions sociales et politiques », ils auraient carrément pu développer cet élément-là, simplement en le rendant jouable. Bon, ils ont fait des suppléments de matos, on a continué de faire de la baston.
Après, juste pour pondérer ça, c'est qu'il ne faut jamais isoler le jeu de son corps sociologique et social. Qui joue à ces jeux ? Ce sont des gens qui ont lu du cyberpunk, qui ont lu la littérature dont on
parle. Tu n'en sais vraiment rien. On n'en sait rien du tout quand on vend un jeu.
Je pense ici, messieurs, qu'on est sur une situation où, où on fait référence à ce qu'on connaît, nous. C'est-à-dire que
voilà, c'est ça. C'est
nous, on l'a joué, en tant que joueurs qui avions lu, s'ancrions dans ces références.
C'est ce que j'allais dire
Moi, j'ai lu Cyberpunk très longtemps après avoir joué à Cyberpunk. Hein.
Moi, c'est ce que j'allais dire en conclusion de mon intervention, c'est que moi, ce n'est pas mon expérience, mais les parties que j'ai faites étaient vraiment orientées vers donc une longue campagne de Shadowrun où on a d'abord joué des mafieux, puis ensuite on a évolué vers des groupes plus anarchistes et compagnie. On a donc mon expérience, c'est que c'est une critique sociale que les joueurs sont amenés à endosser, qu'au départ justement on va être trahi par le Johnson et compagnie, mais que qu'est-ce qui se passe après cette trahison là quand on se rend compte qu'on n'est qu'un rouage de la machine et compagnie, et que là on a envie de dire mais merde, je me suis fait avoir, je me suis fait baiser et j'ai pas envie de me faire rebaiser, donc on va rentrer dans le jeu, revenir dans le jeu et cette fois-ci le voir d'une façon différente. Et moi, c'est ça l'expérience que j'ai de ces jeux.
En tout cas, oui, pour Shadowrun, je pense que la trahison est une incitation au libre arbitre.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais,
tout à fait. Je crois aussi que notre discussion maintenant souligne l'importance du système.
Oui,
tout simplement. Si le système ne nous permet pas de faire face ou de détruire le mégacorpo, alors nous ne pouvons pas le faire. Alors nous allons trouver les buts, les cibles plus modestes et plus simples. Alors c'est le système qui est tout, en fait.
Voilà. Je suis désolé, Romaric. C'est un assez beau mot de conclusion, d'ailleurs, Sarah. On va être obligé de conclure ce qu'il est l'heure. Alors j'espère que ça ne génère pas trop de frustration en termes de questions. Pour rappel, nous sommes présents au pôle ludique et la plupart d'entre nous sont généralement des gens accessibles auxquels vous pouvez directement poser les questions. Donc je vous invite à venir tester les jeux de chacun, parler avec ces bonnes gens. Ils vous sont accessibles en bas, au sous-sol. Merci à vous.
Merci Eric.